Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
Nous avons connu Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Boule et Bill, Lucette Sahutier et Robert Castel. Et en 2021, c'est Marc et Maggie sur Radio Shalom.
Ah, on est toujours surpris. Hein. On rigole encore des bêtises de David quand il nous présente.
Surtout qu'il dit en 2021, mais bientôt ça sera en 2022.
Et 2022. Bonjour Marc, bonjour Arnaud, ça va ?
Bonjour
aux auditeurs, vous êtes sur
Radio Shalom.
Radio Shalom, c'était pas prévu au programme.
94.8.
Je m'embrouille. Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous recevons quelque chose d'improbable. Vous sentez déjà la bonne odeur de la bonne nourriture, la bonne bouffe, comme on dit un peu crûment. Aujourd'hui, nous recevons une auteure, nous recevons une journaliste, nous recevons une femme avec un sourire extraordinaire sur Radio Shalom. Elle est polyvalente, elle sait écrire. Je suis sûr même qu'elle sait chanter. En tout cas,
elle sait compter aussi.
Elle sait compter. Alors, elle sait
elle
compter.
Elle a 10 doigts. Et recomptez les vôtres.
On est sur Radio Shalom, elle peut dire qu'elle sait compter. Et elle vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Le Goût de Paris. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Hélal. Bonjour Nathalie Hélal.
Bonjour Maggie, bonjour Marc.
Et bienvenue parce que nous sommes tous les deux des fins gourmets, fins gourmands.
Et on des épicuriens.
Des épicuriens, pour être plus simple.
Il y a pire comme défaut.
Oui, il y a pire comme défaut. Et ce livre, Le Goût de Paris, qui est aux éditions Hachette, est une petite merveille.
Merci.
Et je commence par dire que c'est un cadeau que les gens doivent se faire et pour Hanouka, parce que c'est Hanouka en
bien
ce
sûr.
Moment, et pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Vous allez pouvoir le trouver partout. Il est souvent bien devant parce que c'est tout à fait d'actualité.
Et si tu t'ennuies à la mosquée pour nos amis musulmans, tu prends un livre et tu l'achètes et tu lis les livres. Voilà, il faut penser à tout le monde.
Mais c'est vraiment. Je sais que Marc, depuis que tu l'as dans les mains, tu tournes les pages, tu les retournes, tu les re-retournes. Je sais que là, t'as craqué.
En fait, je les tourne et je les retourne pour t'expliquer pour comment tu vas faire à manger.
Mais oui, non, j'aurais pas cette prétention, même si c'est très bien expliqué, parce qu'on a regardé quand même des recettes.
Il y en a 100, hein, quand même.
Il y en a 100, mais c'est un.
Alors j'aimerais juste citer quand même Sandrine Audegon avec qui Nathalie a écrit ce livre, faut pas l'oublier. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle est là par la présence et par son âme et par le goût du vin.
Le goût du vin,
c'est la spécialité.
Oui, voilà.
Ouais,
Sandrine est une historienne des vins, une formatrice également dans des écoles dédiées au vin. Et sans elle, j'aurais certainement pas pu faire ce livre parce que moi, le vin, ça me parle moyennement, je dois le dire. Voilà, je l'avoue. Donc moi, je suis dans le solide, elle est dans le liquide.
Bah oui, mais il fallait bien.
Enfin, en même temps, comme me disait mon premier boss quand je bossais à Rungis, tu vas pas nous manger un dos de cabillaud du Coca-Cola.
Non,
juste, je voulais dire deux, trois mots, parce
mais
que les gens ne nous voient pas, juste nous écoutent.
Oui. Hein.
Alors, sur ton livre, Nathalie, on l'a tutoie parce qu'on a sympathisé très
fort. Bien sûr.
C'est une œuvre d'art, mais vraiment parce qu'elle parle de Rungis, elle donne des anecdotes, elle parle de mille et une recettes. Quel a été juste le point de départ de ce livre ?
Le point de départ de ce livre, ça a été de se dire que on parle beaucoup du goût de chaque région française et Dieu sait qu'il y a beaucoup de très belles régions et où on mange très très bien, où on boit aussi, mais qu'on ne parle jamais du goût de Paris et qu'il y a un vrai goût parisien. On espère le démontrer dans ce livre parce qu'il y a un goût du terroir, il y a un terroir parisien, il existe bel et bien, et il y a un terroir francilien. Et quand on parle de Paris, bah c'est le Grand Paris. Donc c'est Paris et ses banlieues, comme je dis, fertiles.
Fertiles, exactement.
Alors, je prends l'exemple quand elle dit ça, mais par exemple, elle parle du pain de Gonesse. Voilà, je ne savais pas qu'au départ on faisait du pain à Gonesse, qui est une banlieue
Qu'on connaît,
nordique.
Qui est pas très loin de Sarcelles.
Voilà.
17e, alors bon, c'est le 17e siècle quand même. Hein.
Mais
je vous arrête tout de suite.
Mais c'est ça qui est beau, c'est d'avoir pu remonter jusque-là pour savoir pourquoi il y a effectivement un goût de Paris et de la région. Quoi,
ouais,
de la région
c'est
de
la
Paris,
machine à remonter. En fait, le livre, c'est la machine à remonter le temps de la gastronomie. C'est-à-dire, c'est le temps gourmand et on remonte parfois très très loin dans l'histoire, parfois au Moyen-Âge. Et puis là, justement, sur Gonesse et son pain, c'est le 17e siècle, c'est des marchands qui fabriquent le pain, un pain génial qui est réputé dans tout le royaume de France et qui vont le vendre sur les marchés parisiens.
Les photos sont belles en plus.
Mais
en
c'est ton livre à tout lieu d'être, puisqu'aujourd'hui on revient à ses goûts et à ses origines, puisqu'on fabrique de la bière à Paris, on fabrique du vin à Paris, notamment à Montmartre. On a le Brie de Meaux.
Ouais, c'est pas le meilleur, Montmartre.
Non,
c'est un peu la piquette.
Mais ils essayent de l'améliorer. En tout cas, ils font du marketing autour, comme le Beaujolais a eu son marketing. Mais il y a le Brie de Meaux que tout le monde connaît.
Bien sûr.
Donc en fait, son livre, non seulement il est cohérent, non seulement il est beau, mais en plus, il va juste pousser des portes et planter le marteau où il faut, parce que franchement, Mais même mais je voulais dire aussi une chose très importante, même les photos
sont super belles.
C'est incroyable. Moi, quand j'ai vu le livre, je me rappelle, je l'ai appelé tout de suite. Et j'ai fait un message Instagram, enfin une petite
c'est
story.
Vrai, c'est vrai.
Non, mais c'est...
Ouais, t'as eu un coup de cœur, c'est vrai.
Il me l'a dit, moi. Il m'a dit, mais regarde ce bouquin,
il est beau,
il est magnifique.
Il faudrait vraiment que notre président de Rungis, Stéphane Lalanne, il ait entre ses mains.
Ah bah, écoute, je crois qu'il l'a eu entre les mains.
Tu veux dire le bébé de 2 kilos, presque 5, hein, parce qu'il pèse son poids,
quand même.
Hein. Enfin, bon, si vous ne l'aimez pas, je dis ça aux auditeurs, hein, au moins, vous pouvez toujours vous en servir pour caler une bibliothèque. C'est l'avantage. Hein, ou la table de salle à manger qui ne va pas.
Voilà, non, parce que en plus, il est joli, même à déposer, comme ça, soit.
Il y a un côté un peu sampé. Ouais. Claire Lemay, l'illustratrice là, pour la couve, c'est vrai que les gens m'ont dit « Ah, ça fait très sampé ».
D'ailleurs, qui est-ce qui t'a fait cette couve qui est très jolie ?
Claire Lemay.
Ah d'accord, super. C'est très joli. En tout cas, bravo. Nous, j'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il commençait déjà à faire partie des meilleures ventes.
Il semblerait qu'il soit bien placé dans certaines belles librairies.
Mais c'est super. Ouais. Et c'est super, c'est
pour
vraiment...
ne pas les citer.
Mais pas seulement Paris. Hein.
Oui.
C'est ce qui est important pour tous nos amis qui sont en province. Mm-hmm. C'est que même si on est en province, et même surtout si on est en province, on peut avoir envie de connaître ce goût de Paris.
Exactement. En tout cas,
moi, je n'ai qu'un livre comme ça.
Oui.
Il faudrait faire un partenariat avec des... Même si ce n'est pas de la fine gastronomie, mais ça représente aujourd'hui Paris. Sur un plan marketing, ils ont été très intelligents. Le fameux bouillon Pigalle, il y en a
Bien sûr.
Ça, tu le mets à la vente. Dans ce restaurant, même s'il ne correspond pas au marketing, parce que si c'est du bouillon Pigalle, c'est pas cher.
Je suis d'accord.
Mais tu peux peut-être le mettre mettre 10, tu vois.
Mais c'est ça le décalage, c'est ça qui est génial.
Ou Chartier.
Exactement.
Mais quand je vois tes darioles, les darioles, c'est extraordinaire.
Petite pâtisserie qui n'existe plus.
Non,
on a envie de les manger.
Voilà,
mais...
Ou sinon le soufflé au fromage que j'adore. Ramequin comme chez Rouget, non mais c'est extraordinaire. Moi je connaissais le soufflé au fromage de chez Récamier.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
C'est extraordinaire, j'ai amené ma mine une fois là-bas. Parce
que ils font au chocolat aussi.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Mais toutes les souples.
Tout ça, ce sont des recettes parisiennes. Hein. Je tiens vraiment à préciser. C'est pas des adaptations. Hein. Ça a été vraiment
des recettes
inventées à Paris ou en Ile-de-France.
C'est super. La préface d'ailleurs de Guillaume Gomez.
Ouais, Guillaume Gomez,
à qui on fait un gros bisou,
de France de la gastronomie.
Qui était en Israël là pendant 2 jours. Il est extraordinaire. Alors lui vraiment, il véhicule vraiment la France. La France gourmande.
Guillaume, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est à la fois chaleureux, il est simple. C'est quelqu'un de simple et en même temps, il connaît tout sur ce métier. C'est quand même à la base et comme il le dit d'ailleurs dans la préface, un des meilleurs ouvriers de France. Il a signé comme ça.
Ouais,
voilà,
c'est
un mof.
Voilà, un mof.
Et puis évidemment, chef de l'Élysée pendant 23 ans. Enfin bon, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus dans le milieu de la gastronomie. Il m'a fait l'honneur de cette préface et vraiment, on lui en est très reconnaissant.
Et elle est très jolie la préface d'ailleurs. Elle est longue, mais elle se lit avec... Non, mais elle se lit facilement.
J'ai
raconté une anecdote
que j'ai eue avec Guillaume il n'y a pas longtemps.
Ouais. On le connaît bien, on l'a vu plusieurs
fois. J'allais voir, mais c'est bon, parce qu'il m'arrivait. J'avais rendez-vous avec Michel Rocquet au studio Gabriel.
Ah oui.
Et je passe devant le studio et je croise Guillaume qui était attablé. Il y a un restaurant à côté dont je ne me rappelle plus le nom. Mmh. Il était attablé avec sûrement un copain lui, rugbyman. Et je lui dis salut Guillaume. Et puis je sens qu'il y a un blanc. Je fais Marc Fichel. Il me fait ah, mais sans ton piano, je ne te reconnais pas.
Ouais, c'est vrai.
C'est bien parce que par exemple, elle nous explique ce que sont les pommes de terre Anna ou les pommes de terre Dauphine ou les pommes Pont-Neuf.
Ah, les pommes Pont-Neuf, c'est un monument. Hein. C'est un monument de Paris. C'est vrai que sur le Pont-Neuf, on a commencé à vendre des pommes de terre. Alors, la pomme de terre, elle est arrivée très tardivement. Hein.
Parmentier.
Ouais, Parmentier, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait une méfiance vis-à-vis de la pomme de terre. Les gens se demandaient ce que c'était que ce tubercule.
Ce truc.
Ça n'inspirait pas du tout confiance, on le donnait aux animaux, ça servait à nourrir le bétail.
On le donnait aux animaux comme le topinambour et on ne savait pas quoi en faire.
On ne savait pas comment le cuire. C'est pendant la Révolution française qu'il y a eu le premier livre de cuisine entièrement dédié à la pomme de terre, écrit par soi-disant une femme qui s'appelait Madame Mérigot, cuisinière républicaine.
Et
1794, elle donne 32 recettes de pommes de terre, dont la pomme de terre frite. Enfin, on suppose qu'en fait, c'était quelqu'un qui s'occupait de la com, on peut dire ça comme ça à l'époque, de la com de Parmentier, pour faire un peu monter le buzz, si on peut dire là encore, autour de la pomme de terre. Et c'est comme ça que la pomme de terre est devenue populaire, enfin petit à petit, ça a mis du temps quand même, je vous fais un grand raccourci. La pomme de terre s'est vendue donc en frites dans des cornets de papier journal ou de livres recyclés, de mauvais livres qui ne se vendaient pas, et notamment sur le Pont-Neuf, c'était l'endroit où on est allé acheter ces cornets de pommes frites.
Les pommes de terre se vendent toujours comme ça en Angleterre.
Ouais.
Ils mettent du vinaigre dessus.
Oui, alors ça j'aime moins. J'avais déjà goûté,
je pense qu'en fait tu pourrais aussi faire un partenariat avec tous les toutes les entreprises qui livrent les restaurants.
Ah, c'est une émission de partenariat,
ouais,
en fait.
Non, mais, alors, non, mais tu, en fait, tu devrais le prendre comme commercial parce qu'il a toujours des idées de ouf, Marc.
Non, mais
je te jure.
Que, par exemple, Maître Charrière sur son arbre perché, qui est un des plus gros services livraison sur la place de Paris, puisque ouais. c'est Verger Saint-Eustache, et tutti quanti, il a racheté tout le monde. De toute façon, c'est pas ça. C'est bien simple. Ouais. Ils sont deux ou trois concurrents, mais souvent, il m'appelle, il me dit je voudrais. Pas Michel Charrière, le pauvre, mais ses commerciaux ou d'autres.
Oui, oui.
Bonjour, il me faudrait la variété Pont-Neuf. Et là, il y a un blanc, je dis, tu veux de la pomme de terre Pont-Neuf. Il me dit, oui, il me faut une palette de Pont-Neuf. Ah, je fais, ça va être compliqué de les couper en mode Pont-Neuf. Il me fait comment ça? Je fais, c'est pas une variété, c'est une façon de la manger, la Pont-Neuf. Mais ça, on l'a droit chaque année. Hein.
Oui, parce qu'elle est un peu épaisse, il faut le préciser. Elle est un peu coupée plus épaisse.
Voilà,
ouais.
Donc, en fait, avant de vendre le produit, il faut le connaître, son produit. Et je pense que Nathalie serait une très bonne commerciale aussi dans les fruits et légumes. Parce que,
oui, du coup, tu as dû tellement te renseigner. Mais je vais te raconter quelque chose. Avant le Covid, Marc a fait un concert à l'Européen. C'était donc il y a 2 ans maintenant, en décembre exactement, il y a 2 ans.
Et Covid.
Avant le Covid, c'est ce que
j'ai
dit.
C'est le point de repère maintenant.
Et ouais, exactement. Et en fait, on cherche toujours à être un peu originaux, nous, dans les concerts, parce que bon, on voudrait que les gens repartent avec des étoiles dans les yeux, en dehors de la musique, qui repartent avec un souvenir. Et on a eu cette idée de faire justement un partenariat avec un producteur de pommes de terre. Et on a mis sur tous les sièges, donc il y avait quand même 400 et quelques personnes, sur tous les sièges, un petit filet de pommes de terre, avec dedans des recettes à faire avec les pommes de terre qu'ils avaient dans le filet.
Génial.
Ils sont tous repartis avec. Et je t'assure que pendant des semaines, en fait, on a créé le buzz parce qu'ils parlaient. Merci Marc pour le concert et tout. Mais alors, vous savez quoi? La recette qui est page numéro 4, on n'a pas très bien compris. C'est-à-dire que c'était parti. C'est-à-dire qu'il y avait il y a eu un engouement autour de ce petit livret de recettes avec la pomme de terre. Et voilà, tu vois, les partenariats, des fois, ça te déclenche des choses. Donc voilà, comme on
parlait
de la pomme de terre.
Comment faire des patates avec les patates.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Et,
ouais, c'est ça.
Exactement. Alors, écoute, en tout cas, nous, on va faire déjà une petite page de pub parce qu'on est obligé. Et puis, on revient tout de suite et on continue à parler avec Nathalie de tout ça. Et on va lui poser nos petites questions fétiches, quoi. À tout de suite.
Marc et Maggie, saison 2, encore plus de bienveillance, encore plus d'amour, encore plus de musique, encore plus de plus de tout.
Encore plus de tout. Donc
encore
on est toujours
plus de goût.
On est de goût, exactement. Le goût de Paris. On est avec Nathalie et Lal pour son superbe livre. Et vous êtes toujours sur
écrit
Radio
à
Shalom.
À quatre mains.
À quatre mains, exactement.
Avec Sandrine Audegon.
Avec Sandrine Audegon, qui est spécialiste en vin.
Alors, quelle heure il est? Là, il est 4h moins le quart, je suis devant le faux filet Mirabeau. Alors, moi qui ne mange pas cachère, hein, et même je pense qu'on peut le faire cachère, c'est pas un problème.
Mais bien sûr, bah attends, il y a plein de
des anchois et des olives.
Non, oui. Moi je vais prendre des pommes de terre pomme neuf avec un faux filet Mirabeau, tu vois, ça va aller très bien.
Regarde notre gourmand là-bas qui regarde.
Non, mais on a
Arnaud,
tu vas regarder le livre si tu veux, je vais te le prêter.
Mais tu nous le rends.
Voilà, c'est le réel.
Il s'appelle Reviens, exactement.
Alors, tu sais, Nathalie, on pose une question à tous nos invités. C'est juste savoir, toi, en 3 mots, qui es-tu? 3 adjectifs. Comment te définis-tu, Nathalie Elal, en 3 mots?
Emmerdeuse.
Ah oui, on aime bien.
Tu le parais pas.
Je suis cash. Hein.
Ouais.
Tenace.
Ah, c'est bien ça.
Bosseuse.
Voilà, très bien, parfait. Okay. Bah, tu fais partie de la famille aussi. Hein. C'est bien, c'est pas mal. Ça
moi,
nous convient.
J'aurais dit en un mot, c'est un puits d'amour.
Oh, ouais, c'est trop mignon.
Il était en plein dedans, là. Trop mignon. Trop mignon. L'autre, il n'en peut plus. Il regarde. Alors, comme on parle. Alors, même si on ne parle pas assez souvent de gastronomie sur cette petite émission, on a quand même une question, nous, parce qu'on est tous les deux très gourmands. Et on a une question qu'on adore poser à nos invités, mais du coup, elle tombe très bien avec toi. On leur demande, en fait, quel serait le meilleur casting pour toi? D'une soirée à table chez Nathalie Elal. Qui inviterais-tu à ta table?
Oh, ça va être clivant, là. Ça va être vachement clivant.
Bah, vas-y, hein.
Je peux dire de qui je suis fan?
Mais c'est tout l'intérêt.
Pour moi, le plus grand cinéaste au monde, c'est Polanski.
Eh ben, voilà.
Alors, Roman, si vous m'écoutez,
vous êtes
je suis fan, je suis absolument fan de tout ce que vous faites depuis mes 14 ans. Depuis que j'ai eu une grosse claque en regardant un film qui s'appelle Le Locataire, que j'ai découvert quand j'avais 14 ans. J'ai suivi votre carrière, j'ai tout lu, voilà, je suis la groupie de Polanski. C'est pas très politiquement correct aujourd'hui de le dire, mais je m'en fous, j'assume complètement.
Bah ouais, et puis
c'est
surtout
un génie du cinéma. Et je l'invite à bien manger. Voilà. Et je pense que peut-être je ferai même de la cuisine polonaise pour Roman.
Voilà, c'est bien. Ah bah voilà. Mais donc, toi et lui ou quelqu'un d'autre quand même?
Écoute, on va pas bouder son plaisir. On va inviter d'autres gens qui sont également fans.
Ouais. Elle a été manger un Porsche il n'y a pas très longtemps.
Oui, c'est vrai.
Dans un fameux restaurant.
Oui, mais un Porsche russe, pas polonais.
Voilà, mais j'ai vu et je pense qu'il faut qu'on y aille parce qu'il y a des choses végétariennes.
Ah ouais,
il y a du veggie là-dedans et je pense qu'on va kiffer.
Moi, je peux donner l'adresse.
Ouais, oui, vas-y.
Ouais.
C'est un petit café qui s'appelle le Café Pavane, qui est au 22 rue de Vaugirard et tout près du Sénat. Et c'est une jeune femme qui tient ça et elle fait de la cuisine russe à se taper les fesses par terre. Mmh. Et notamment un borscht qui est soit végétarien, soit version non vegan. Mmh. Et puis des pelmeni, des pirochki, enfin tout ce qu'on aime.
On va y aller, alors.
Cuisine russe presque authentique. Oui, il faut y aller.
On va y aller, on va y aller.
J'ai une petite question.
Vas-y, vas-y.
J'aimerais qu'elle nous raconte Passy la colline du sucre avec la victoire de Napoléon. Parce que je trouve ça très intéressant et ça serait bien que je n'ai pas les relire, c'est mieux qu'elle le raconte.
Allez, d'accord.
Alors, bon, on est en 1809, il y a le blocus continental, c'est-à-dire que, eh bien, on est en train d'asphyxier, à cause de Napoléon, on est en train d'asphyxier la route du sucre, d'accord, qui vient, la canne à sucre à l'époque, hein, elle vient des Antilles. Mmh. Bon, il y a un petit problème d'approvisionnement, on va dire, donc il y a une pénurie de sucre, ça se passe très mal. Et donc, depuis déjà quand même des années, on essaye, en France notamment, mais pas que en France, aussi en Allemagne, on essaye de faire avec de la betterave du sucre, de transformer la betterave dont on sait depuis très longtemps qu'elle contient donc du sucre à l'état naturel, de la transformer chimiquement, mais on n'y arrive pas. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle Benjamin Delessert et qui s'entoure de chimistes, qui est assez doué. C'est un industriel, un financier. Il a des filatures sur les collines de Passy, exactement à l'emplacement de la maison de la radio. Il a des filatures de textile. Et d'un coup, donc, ils font cette découverte, Benjamin Delessert et puis ses associés, ses acolytes, et ils savent comment synthétiser le sucre de la betterave. Et donc, ils vont transformer ces ateliers et ces usines qui sont sur les collines de Passy en raffinerie. Et ils vont commencer à fabriquer du sucre à cet emplacement. Évidemment, dès que le premier pain de sucre est réalisé, parce qu'à l'époque, ce n'est pas évidemment du sucre en morceaux, c'est du sucre en forme de pain, donc assez conique, hein, la forme. Ils amènent ça à l'empereur et l'empereur, on raconte que Napoléon a ôté sa propre légion d'honneur pour l'agrafer, l'épingler sur le revers de la veste de Benjamin Delessert. Donc, c'est une découverte révolutionnaire.
C'est joli comme histoire.
Donc, à partir de là, l'empereur va ordonner que des tas de champs soient plantés en betteraves pour pouvoir fabriquer du sucre de betterave en grande quantité.
C'est génial.
Sauver le goût sucré qui tient tant à cœur à tout le monde.
C'est génial. C'est très sympa. C'est bien. Voilà. En plus, vous voyez, vous avez plein d'histoires comme ça à l'intérieur du livre qui s'appelle donc Le goût de Paris aux éditions Hachette. Qu'est-ce que tu préfères? Le petit déjeuner, le goûter, le dîner? Qu'est-ce que tu préfères, toi?
Je suis très bec sucré. J'adore le goûter. C'est un truc d'enfance. Et puis, j'avais une grand-mère juive autrichienne qui était quelqu'un qui aimait passionnément les conditorailles et à Vienne, elle était de Vienne.
Ouais.
Donc, je crois que ça doit être atavique chez moi parce que j'ai toujours eu cette image d'un truc très, très agréable, se poser dans un fauteuil cosy, dans un endroit cosy qu'on appelle un salon de thé et de pouvoir manger un chariot de pâtisserie. Ben, pour moi, c'est un des plus grands plaisirs de la Terre.
Angelina,
moi le Mont Blanc, je l'ai connu quand j'avais 8 ans, j'ose pas dire mon âge aujourd'hui, mais j'ai toujours mangé du Mont Blanc et
28.
Je surtout pas. Oui, c'est ça, voilà, par exemple, si ça te fait plaisir. Et donc voilà, oui, le Mont Blanc, c'est une de mes grandes passions.
C'est vrai.
Justement, ouais. Angelina, c'est très marrant que tu donnes cet exemple. Parce que Angelina, à l'origine de ce salon thé, dont je ne parle pas malheureusement dans le livre d'ailleurs, on ne peut pas parler de tout, il faudrait faire un deuxième bouquin. Angelina, c'est un salon de thé qui a été créé par un Autrichien, puisque ça s'appelle Maison Rumpelmayr à l'origine.
Ah, mais voilà, mais on va apprendre plein de choses avec Nathalie aujourd'hui.
Bah,
c'est
Angelina
bien.
Et Storer, on est bien là.
Ouais. Et quelle serait la recette de ton enfance? La recette qui te fait penser à ton enfance?
C'est un truc très, très, très banal et en même temps pas banal parce que la manière dont ma grand-mère la faisait ne l'était pas. C'est la tarte aux pommes et à la cannelle de ma grand-mère.
Ah, la cannelle obligée.
Ma grand-mère, et je fais toujours cette tarte aux pommes et je suis assez fière de moi parce que j'ai réussi à retrouver, tu sais, quand on parle du goût de l'enfance et souvent tu es nostalgique d'un goût, d'une saveur de l'enfance.
Oui, oui.
et tu cherches à la retrouver toute ta vie, tu la retrouves pas, tu dis ah ouais mais on la faisait comme ça chez moi. Ben non, non, moi j'ai retrouvé ce goût.
Ah.
Donc je fais une tarte aux pommes avec des pommes Boscop, c'est important, c'est la saison en ce moment, c'est des grosses pommes un peu charnues, voilà.
Ouais.
Et on coupe des gros quartiers, on les met sur une pâte brisée, mais surtout il y a une petite astuce, c'est qu'on va faire un petit mélange rapide de un tout petit peu de farine, un tout petit peu de sucre blond de canne et de la cannelle sur le fond de la tarte non cuite.
Mmh.
On met les pommes coupé en gros morceaux, enfin gros quartier, ouais, épluché.
Mmh.
Quelques petits copeaux de beurre, encore de la cannelle, et c'est une odeur dans le four.
Et là, t'as retrouvé vraiment
j'ai
le
retrouvé
goût.
Ça, c'est complètement
c'est
addictif. Et ça, et cette odeur de cannelle, de pomme qui est en train de cuire dans le four, c'est complètement addictif, c'est un truc génial. Et c'est, pour moi, c'est l'odeur de l'enfance.
Mais c'est l'odeur de la cannelle, c'est
oui.
Moi, j'appelle ça l'odeur ashkénaze.
Ah, mais c'est vrai.
Oui,
non,
mais
non, c'est vrai. Ils en mettent partout, même dans
partout,
même dans les places salées, ils en mettent.
Ils en mettent en Israël parce que oui, ça a été repris des pays d'Est.
Exactement.
C'est l'odeur aussi de New York à Noël.
Ouais,
exactement.
Tout,
tout à fait. Tout à fait. Mais finalement, c'est l'Europe de l'Est.
C'est le cinnamon. Ouais. Ils font des gâteaux à cinnamon aux États-Unis, mais c'est toute l'Europe de l'Est qui
c'est l'Europe de l'Est, absolument. Et strudel aussi. D'ailleurs, il y a un peu de cannelle.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, faut aimer, parce que ceux qui aiment pas, par contre, en Israël ou ailleurs ou à New York,
c'est clivant la cannelle.
Ah oui. Même on a même des chewing gum. Pourquoi tu me fais coucou? La musique. On voulait te faire plaisir et parce que tu as choisi d'écouter Nathalie de Gilbert Bécaud, mais on va pas l'écouter parce que sinon ça va nous faire perdre deux minutes
on
avec toi.
On peut mettre
toi
en chante à la fin qu'on va dire.
Oui,
on va
à la fin,
peu...
voilà. Oui,
voilà,
il nous reste trois minutes. Alors on va.
Moi, je voulais juste te dire que le goût de mon enfance, moi, c'était le gâteau au fromage de mon père.
Je sais. Voilà. Mais tu l'as. Mais la chance, t'as au moins la chance de toujours l'avoir parce que ton père, tu
sais
pas le faire, mais il va te passer la recette.
Non, il ne fait rien passer du tout. Il a mis des. En fait, il a repris la recette de sa mère qui n'avait pas, il a cherché. Et à force d'essayer, il a fait
un gâteau au fromage.
C'est le meilleur.
C'est pas la première fois qu'on en parle
à
l'antenne.
C'est
hein.
Dégueulasse, quoi. Il est 16h54,
voilà.
Vous parlez de trucs
mais
incroyables
oui.
Et il n'y en a même pas.
Oui,
oui, je sais, je vous dois une tarte tatin.
Voilà,
je
ramène la crème fraîche. Hein. J'ai pas de problème, ça, je sais l'acheter.
Dis-moi, j'avais encore plein de questions, mais j'en ai une que je. Parce qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Si tu étais une héroïne, tu serais qui?
Une tarte aux pommes.
Non,
mais ce que j'ai envie de vous dire, qu'en fait, je suis un peu Caroline Ingalls. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le monde peut s'écrouler. Je continue à faire des tartes aux pommes. J'en ai rien à foutre.
Oh, c'est trop bien. Alors c'est génial. J'adorais moi la petite maison dans la paille. Donc en fait, on va t'imaginer avec les nattes. Hein, et puis tu cours dans les champs pour aller récupérer.
Non mais Caroline, c'est la mère.
La mère, oui. Moi, je t'imaginais en Laura Ingalls.
Ouais, mais il y a la robe qui va bien, tu sais, en tissu Liberty. Il y a le tablier brodé, puis il y a le sourire, et puis il y a la tarte aux pommes.
Appelle-moi Charles.
Appelle-moi Charles. Donc voilà, donc vous savez que maintenant que Nathalie Elal, si elle était une héroïne, elle serait Caroline.
Non mais
Nathalie
Elal est comme Maillet, comme les filles qui sont bonnes vivantes, elles aiment manger. C'est important
mais
d'aimer manger.
Celles qui aiment pas manger, pour moi.
Non, elles aiment pas la vie, on est d'accord.
Il y a plein de. Ah la voilà.
Et voilà Nathalie, court dans les locaux de Radio Shalom.
Voilà notre héroïne du jour. C'est elle, l'héroïne du jour. C'est. C'est pas mal. Et dis-moi, en attendant que nous filmes, parce que les auditeurs nous écoutent toujours, si tu devais être sur une île déserte et que tu devais amener une chose à manger, t'amènerais quoi? À part la tarte aux pommes, hein.
À part la tarte aux pommes, je pense que j'amènerais tout ce qui est à base de pâte d'amande. Parce que je trouve que c'est super réconfortant. Et en plus, c'est malin, c'est nourrissant, ça prend pas de place. C'est des barres de pâte d'amande.
Exactement.
Mais bonne, hein.
Voilà. Non, je lui ai demandé si elle devait se retrouver sur une île. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de l'émission.
Déjà ?
Mais oui, déjà. C'est le goût du peu pour le goût de Paris.
Je voulais parler de la crème de carotte Crécy, moi.
Eh bien, écoute, on la réinvitera. Et tu sais quoi, on l'invitera après les fêtes et elle nous dira combien de livres elle a vendu. Donc, le goût de Paris aux éditions Hachette, que vous pouvez trouver partout.
Et de la région Île-de-France.
Et de la région
Île-de-France. Et de la région
exactement.
Île-de-France.
Et faites-vous plaisir, parce que là, vraiment, pour le coup, c'est un plaisir des yeux, un plaisir de la bouche, un plaisir de tout. C'est génial. Merci, Nathalie.
Merci, Maggie. Merci, Marc. C'était super.
Quand tu veux.
Merci.
Marc, à demain. Demain, on va parler Miss France, Pronupsia, enfin plein de trucs. Ça va
régime,
être,
alors.
On va pas rentrer dans la robe, ça c'est sûr, mais on va les inviter. À demain et salut Arnaud, merci beaucoup.
Salut
Jessica qui est derrière.
Et on
aussi.
Vous laisse avec le flash international.
Ah oui, toujours.
Écouté par le monde entier de Monsieur Pierre Gandus.
Et Marc Scalia juste après.
À 19h.
Voilà.
Heureusement,
ciao.
Il y a Gandus. Gandus.